Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 12 octobre, la deuxième vague est là. Plus question de relâchement, prévient le Premier ministre. Emmanuel Macron s'exprimera mercredi à la télévision. Pourtant, certains soignants à l'hôpital sont contraints d'aller travailler, même s'ils sont positifs au Covid. Témoignage à suivre. Quelles vacances pour la Toussaint, limitation ou pas? Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sera l'invité d'RTL Midi. Une jeune fille de 19 ans entre la vie et la mort à Marseille. Une autre de 17 ans blessée, elle aussi, par balle. Elles ont été prises dans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Les policiers pris pour cible une fois de plus au commissariat de Champigny-sur-Marne après l'attaque d'Herblay. Ils manifestent devant les commissariats dans toute la France à l'appel du syndicat SGP Police. L'électrique veut changer de braquet. 100 000 bornes vont être installées pour les voitures. Ceux qui achètent des occasions auront droit à une prime de 1 000 euros. Et la prime de conversion pour les diesels disparaîtra à la fin de l'année. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Alors comme ça, vous avez cassé le thermomètre.
Oui, ça c'est vrai, vous avez vu depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. Il y avait très très longtemps que ce n'était pas arrivé, plusieurs mois que l'on enchaîne comme ça les journées sous les températures de saison. Ce sera encore le cas aujourd'hui, hein, je commence par ça. 10 à 13 degrés seulement dans les régions du Nord-Est, Lorraine, Alsace. C'est quand même 3-4 degrés sous les normales. 13 à 14 degrés, pas plus dans les autres régions de la moitié Nord, jusqu'à 16 degrés dans le Sud-Ouest. Et on atteindra péniblement les 20 degrés près de la Méditerranée, où là, attention, il y aura un ciel dégagé, mais beaucoup de vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront au moins les 100 km/h dans la basse vallée du Rhône. Dans les autres régions, petit répit, avec certes des passages nuageux, mais quelques éclaircies et peu de précipitations, en attendant déjà une perturbation qui apportera des nuages, de la pluie et du vent sur la Bretagne.
Merci quand même. La question du jour à propos de la crise liée à la Covid-19, faut-il soutenir financièrement les jeunes? Vous êtes 62% à nous dire non sur RTL.fr, il y a 22% de oui. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Ils ne sont pas très sympas.
Non.
Bonjour
trop,
Christelle,
non.
Effectivement, mais c'est une question qui rebondit sur ce que disait François Hollande hier, qui redoutait une grave crise sociale qui touche toute la jeunesse, et d'une manière plus large, l'ancien président de la République proposait un impôt, faire payer les plus riches dans cette période-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera évidemment tout à l'heure. Pourquoi tant de haine autour des policiers? Ce sera un autre thème. En cas d'élection en 2022 de Marine Le Pen à la présidentielle, Enrico Macias affirme être prêt à quitter la France et s'installer en Israël. Comment réagissez-vous? Est-ce que les artistes doivent se mêler de politique? Et puis craignez-vous un reconfinement? Le premier ministre Jean Castex a parlé d'une deuxième vague forte dans le pays ce matin. Vous pourrez réagir également sur ce sujet.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Effectivement, les voyants sont au rouge. La France est dans une deuxième vague forte de l'épidémie, a reconnu Jean Castex. Il ne peut plus y avoir de relâchement. Des reconfinements locaux ne sont pas exclus. Emmanuel Macron sera interviewé mercredi dès 20h à la télévision. C'est rare, William Galibert, que les deux têtes de l'exécutif s'expriment la même semaine.
Oui, et c'est bien le signe qu'au sommet de l'État, on considère qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. La situation est grave et en plus, le message ne passe pas du tout. Ça fait plus d'un mois que Matignon affirme vouloir créer un électrochoc, que le Premier ministre multiplie les prises de parole encore ce matin à la radio. On ne fait pas ça pour vous embêter, mais pour vous protéger, a imploré Jean Castex tout à l'heure. Mais le constat est résumé sèchement par un conseiller ministériel. Il est totalement inaudible. Alors avant les vacances de la Toussaint, c'est le président qui va tenter lui-même de corriger le tir. Mercredi matin, il y aura un nouveau conseil de défense sanitaire, peut-être de nouvelles restrictions envisagées. Et mercredi soir, Emmanuel Macron fera ce nouvel appel à la vigilance, un peu comme un dernier avertissement avant sanction, pour éviter des restrictions de circulation ou des reconfinements partiels. Il fera aussi un point sur la situation économique du pays. Et un dernier sujet devrait s'inviter à table, la sécurité, après les nouvelles attaques contre la police. D'ailleurs, les syndicats de police seront reçus par le chef de l'État jeudi matin, juste après cette intervention de mercredi soir.
Décryptage William Galibert. Toulouse et Montpellier passeront donc en alerte maximale demain. En région parisienne, 17% des personnes testées sont positives. C'est un chiffre jamais atteint depuis le déconfinement. Et alors que les lits se remplissent dans les hôpitaux, on entend de plus en plus de témoignages témoignages de soignants nous expliquant qu'ils ont dû aller travailler alors qu'ils étaient positifs au Covid, ce qui est quand même une sacrée prise de risque. Et pourtant, Agathe Landé, c'est autorisé par la Haute Autorité de Santé.
Oui, c'est écrit noir sur blanc dans l'un de ses communiqués. Si un personnel est testé positif, qu'il est asymptomatique et qu'il n'est pas remplaçable, alors je cite, son maintien en poste avec un renforcement des mesures de précaution est envisageable. Une consigne assez incroyable, mais qui vaut pour tous les hôpitaux. Olivier Terrien est secrétaire général CGT au CHU de Nantes.
À l'issue du test, s'ils sont positifs, on leur demande de venir travailler. Et ceux qui voudraient éventuellement s'écarter, ils ne peuvent pas non plus. On leur dit, vous êtes malade ? Non, vous n'êtes pas malade, donc vous venez travailler. Enfin, on marche sur la tête, quoi. On travaille auprès de patients et des patients qui sont vulnérables. On les met en danger. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec la roulette russe, quoi.
Et cet hôpital de Nantes est loin d'être un cas isolé. En Île-de-France, par exemple, le chef d'un service d'urgence me confirmait qu'il faisait lui aussi travailler ses soignants asymptomatiques depuis début septembre. À cause du manque de personnel, il préfère avoir un médecin malade du Covid sur son planning que pas de médecin du tout.
Agathe Landé, quant à l'appli Stop Covid, boudée par les Français et même par le Premier ministre, une nouvelle version sera lancée à partir du 22 octobre avec notamment un partenariat avec les restaurateurs pour inciter les clients à la télécharger. Et en cette période d'incertitude, le tourisme continue de souffrir. La France, première destination mondiale, accuse lourdement le coup. Les professionnels du tourisme ont été reçus ce matin à Matignon. Invité d'RTL Midi, Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme, bonjour.
Bonjour.
Combien de milliards ont été perdus depuis le début de l'année ?
Écoutez, nous estimons que ce sont 50 à 60 milliards d'euros sur les 180 de recettes habituelles pour le tourisme. Donc c'est considérable, c'est près d'un tiers des recettes qui ont été perdues. Et c'est pourquoi, depuis le début de la crise, eh bien, l'État, le gouvernement, nous avons répondu présent aux côtés de ces professionnels avec un plan massif à la fois de soutien et d'investissement parce que nous devons... ce moment très compliqué.
Il y a 18 milliards d'euros qui avaient été débloqués dans le plan d'urgence en mai. Il n'y a pas de rallonge à suivre.
Alors, nous avons, puisque nous avons continuellement adapté les outils. Je pense au fonds de solidarité qui a été élargi la semaine dernière. Désormais, ce sont les entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent y prétendre dans le secteur du tourisme avec jusqu'à 10 000 euros par mois. Et donc, tout ça a un coût. Et c'est un coût supplémentaire d'environ 700 millions d'euros chaque mois. Donc, vous voyez que face à l'urgence économique, nous ne mégotons pas, nous ne lésinons pas. Nous sommes aux côtés des acteurs parce que nous voulons préserver les emplois, les entreprises, ce sont eux les talents qui font que France, elle est rentrée dans la crise en étant première destination mondiale et on espère bien rebondir une fois ce fichu virus vaincu.
Ça veut dire que vous allez soutenir aussi les autocaristes qui manifestent à Paris cet après-midi ?
Nous avons intégré les autocaristes dans le plan tourisme, il y a de cela plusieurs semaines avec mon collègue Djebari et je peux vous dire que le Premier ministre, il a redit que l'État, il a été... Il est et il sera aux côtés des acteurs. Nous avons prolongé un certain nombre de dispositifs jusqu'au 31 décembre. Et le Premier ministre a rappelé que nous aurons une clause de revoyure à ce moment-là pour envisager la suite. Parce que ce n'est pas le 31 décembre à minuit que le virus va s'évanouir, hélas.
On est bien d'accord. Ça va durer encore des mois et des mois. Les vacances de la Toussaint commencent samedi. Il y a 7,5 millions de personnes en général qui en profitent pour partir. Est-ce qu'il y aura des restrictions de déplacement ?
À ce stade, nous n'en sommes pas là et c'est pourquoi c'est un double message que j'envoie, un message à la fois de confiance et de vigilance. Confiance parce que les professionnels du secteur, je peux vous dire qu'ils se sont préparés très méticuleusement, très soigneusement avec des protocoles sanitaires renforcés et donc ils sont prêts à vous accueillir. Par ailleurs, ils nous l'ont précisé ce matin, c'est une annonce, ils vont faire en sorte que les annulations se fassent sans que cela coûte quoi que ce soit aux clients, aux consommateurs. L'UMIH, le GNI, les entreprises du voyage se sont tous engagés à cela. Ça veut dire que vous pouvez réserver et s'il y a un pépin, vous pourrez annuler sans être pénalisé. Et deuxième message, c'est la vigilance naturellement parce que tout cela dépend de nos comportements personnels à chacun. Et on le sait, si dans la sphère du travail, si dans la sphère d'ailleurs des acteurs du tourisme, chacun respecte les protocoles sanitaires, on sait que quand on est dans la sphère privée, dans la sphère familiale, on prend peut-être moins de précautions et c'est pourquoi on doit chacun être, de ce point de vue-là aussi, très responsable.
Donc vous incitez quand même les Français à partir alors que tous les voyants sont au rouge.
Je dis, il faut apprendre à vivre avec le virus et donc adapter nos comportements. Ça veut dire que lorsqu'on se déplace, et les déplacements ne sont pas interdits à ce jour, eh bien il faut prendre toutes les précautions d'usage, les gestes barrières, le masque. Il faut, et c'est vrai, c'est parfois un peu frustrant, mais c'est comme ça. On aurait envie parfois, quand on est grand-parent, de serrer ses petits-enfants dans les bras et vice-versa. Eh bien on sait qu'il faut faire attention à tout cela, à tous ces gestes dans la vie privée. Mais ce que je dis, c'est que les acteurs du tourisme, ils se sont préparés, ils font en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, et à nous aussi, eh bien, d'être au rendez-vous de cette responsabilité.
Et il n'y aura pas de restrictions jusqu'à la fin des vacances.
Vous savez, aujourd'hui, le virus, il pose plus de questions qu'il permet d'apporter de réponses. Et donc, depuis le début, nous avons été en adaptation permanente. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les professionnels, en permettant d'annuler les réservations en cas de pépin, eh bien, ça permet de réserver, de se projeter. Et puis, si à un moment donné, des mesures doivent être prises, et bien en tous les cas, ils n'auront pas d'impact sur leur portefeuille, leur porte-monnaie. C'est ça qui compte. Et donc, je le dis aux Français, organisez
vous
vos
déplacements. Vous dites réserver, de toute façon, il y aura des annulations gratuites.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État au tourisme, d'avoir été l'invité de ce journal. Et avant les vacances de la Toussaint, RTL vous propose de répondre mercredi à toutes vos questions liées au Covid, justement. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook RTL ou nous envoyer un courriel à l'adresse témoin@rtl.fr. Les forains, eux aussi, protestent car la fête est triste et les annulations s'enchaînent. Ils ont mené des opérations escargots dans toute la France. C'était le cas autour de Lille et Arras, dans le Nord. Ils manifestent en ce moment, Franck Hanson, devant la préfecture de Lille.
Oui, des forains en colère, comme ils l'ont écrit sur leur camion, qui ont provoqué une belle pagaille ce matin autour de la métropole. Une centaine de poids lourds au ralenti. Alors même si la foire au manège de Lille s'est tenue récemment, ces professionnels font face à des annulations en série dans ce contexte Covid. Xavier Duhem, l'un des représentants, déplore que tout le monde ne soit pas à la même enseigne.
Entre nous, les hypermarchés, supermarchés, galeries marchandes, Puy du Fou, Astérix, Disney, j'en passe, et Cita Park à Lille sont ouverts, avec des jauges beaucoup plus importantes que les jauges qu'on nous impose à nous forains. Vous voyez l'affiche qui est derrière, c'est nous voulons être considérés comme des commerçants sédentaires, nous payons l'URSSAF comme un boucher charcutier. On aura procuré une gêne certes, mais nous ne voulons pas mettre en otage plus longtemps les Français, car c'est difficile pour eux également.
Romuald, gérant de voitures tamponneuses, reconnaît que les rares foires maintenues, ou Ducasse comme on dit dans le Nord, ne font pas le plein, mais le protocole sanitaire est assuré.
Il faut reconnaître qu'on a la moitié de la population, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais bon, bah, c'est mieux que rien du tout, qu'ils ne suppriment surtout pas les fêtes foraines. Là, on survit tout simplement. Plus on a fait les gestes barrières, on a notre protocole. Nous, sur une fête foraine, on n'a jamais eu un coaster.
Une délégation de forains a été reçue par le préfet. D'autres opérations ne sont pas à exclure.
Franck Hanson devant la préfecture de Lille pour RTL. Dans un instant, deux jeunes filles blessées par balle à Marseille dans ce qui ressemble à un règlement de compte.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Deux nouvelles victimes du trafic de drogue. Une jeune fille de 19 ans est entre la vie et la mort à Marseille. Une autre de 17 ans blessée. Elles ont été prises dans une fusillade autour d'un point de vente dans le quartier de la Belle de Mai hier soir. Les deux hommes qui les accompagnaient n'ont pas été touchés. Et pourtant, a priori, Étienne Baudu, ce n'était pas les jeunes filles qui étaient visées.
Non, certainement pas, hein, mais plutôt les deux hommes qui se trouvaient à l'avant de la voiture. Eux ont pu s'échapper et l'un s'est même ensuite rendu à la police. Un jeune homme de 21 ans, bien connu de la justice et qui aurait été déjà victime en novembre 2019 d'une tentative d'assassinat. Un scénario peut alors s'échafauder. Tous les quatre se seraient rendus dans cette cité pour peut-être tout simplement s'approvisionner en stupéfiants. Mais était-il alors déjà suivi et les agresseurs auraient-ils saisi l'occasion de cet arrêt pour passer à l'action? Là, ils auraient bloqué l'arrière du véhicule, puis tiré au pistolet mitrailleur sans faire aucune distinction et en arrosant littéralement le véhicule, la jeune femme très gravement blessée a été atteinte d'une dizaine de projectiles et des véhicules stationnés à côté ont été criblés de balles. Ensuite, les agresseurs auraient poursuivi dans le dédale de la cité les deux fuyards, là encore tirant à plusieurs reprises, de nombreuses douilles y ont été retrouvées, mais ils ne seraient donc pas parvenus à les éliminer. Un scénario que les enquêteurs de la PJ vont devoir confronter aux déclarations de l'homme interpellé et aux éléments recueillis sur le terrain. En revanche, ils auront sans doute du mal à obtenir des détails de la par des habitants. L'omerta est en demise dans cette petite cité.
Nous serons intraitables, a dit Jean Castex à propos de ceux qui attaquent des policiers, reconnaissant l'insécurité, c'est le point faible de notre pays. Emmanuel Macron recevra les syndicats de police jeudi. En attendant, après l'attaque à coups de barre de fer avec des tirs de mortier d'artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne, le syndicat SGP Police a appelé à manifester à midi devant les commissariats. À Lyon, Nerissa Emani a rencontré Ludovic Cassier de ce syndicat.
Il est hors de question de s'habituer à l'idée qu'on puisse librement attaquer la police. En fait, c'est une colère, mais c'est plutôt une accumulation, parce que c'est pas la première fois. Ça se reproduira peut-être même, qui sait, aujourd'hui, demain, le reste de la semaine. Il est urgent que l'autorité de l'État, et donc celle de la police, soit rétablie. La réponse est entre les mains de la justice. Il faut que nos magistrats prennent en compte le problème que vit la France, parce que tout est lié. Les policiers se font attaquer dans leur quotidien lorsqu'ils remplissent leur mission, mais donc c'est la sécurité des Français qui est remise en cause à travers ces attaques. C'est surtout qu'on puisse réagir, que l'on puisse réagir sans s'inquiéter de notre réaction, en respectant les lois, en respectant les règlements sur la réponse à apporter, mais que la police puisse réagir aux attaques. C'est l'usage de gaz lacrymogène, c'est l'usage du lanceur de 40 de défense, c'est le fait aussi que les agents ne soient pas que deux pour pouvoir réagir. On ne réagit pas à deux face à 40 individus, il faut qu'il y ait dans le commissariat les effectifs nécessaires pour pouvoir répondre. L'équipement, c'est important, mais la présence humaine dans les rues de Lyon, c'est l'essentiel.
Propos recueillis par Nerissa Emani. Quant au policier le plus grièvement blessé mercredi soir à Herblay, son pronostic vital n'est plus engagé, mais son état reste grave. L'un des trois suspects qui s'était rendu vendredi est toujours en garde à vue. Une demande de levée d'immunité parlementaire, c'est rare pour les députés et sénateurs, et inédit lorsqu'il s'agit de violences conjugales. RTL vous le révélait ce matin, le député de la majorité de Gironde, Benoît Simian, est visé pour harcèlement moral et violences psychologiques sur son ex-femme. Lui plaide le divorce compliqué, Émilie Beaujard.
Oui, le député de 37 ans est marié à Soraya depuis 2016. Le couple se sépare au printemps dernier. Les relations s'enveniment. Benoît Simian porte plainte pour violence contre son ex-femme. Il dit avoir été frappé à l'épaule. Soraya, elle, se dit victime de harcèlement psychologique. Des faits attestés par une décision de justice, puisqu'une ordonnance de protection est rendue le 3 août dernier et un téléphone grave danger lui est attribué. Le magistrat note le caractère progressif et inquiétant du harcèlement et interdit à Benoît Simian d'approcher du domicile. Pourtant, selon Soraya, son ex-femme, les provocations continuent.
Les gendarmes font un travail remarquable, mais j'ai bien compris que tout le monde était impuissant, en fait. Et cette immunité parlementaire qui nous bloque.
Le parquet de Bordeaux a donc fait une demande de levée de l'immunité parlementaire pour pouvoir l'entendre. De son côté, Benoît Simian nie tous les faits qui lui sont reprochés. Il assure être lui-même victime et entend bien se faire entendre devant la justice.
Info RTL signé Émilie Beaujard. Dans un instant, on roule à l'électrique.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Comment accélérer le développement de la voiture électrique? Le marché frémit clairement pour les voitures neuves, mais il faut aussi motiver les acheteurs pour les occasions et lever ce qui est le principal frein, c'est-à-dire le manque de bornes rechargeables, Christophe Bourron.
Oui, d'abord le gouvernement va donner une prime de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion au 1er janvier, et cela sans condition de ressources, alors que jusqu'à présent, cette aide ne concernait que l'achat d'un véhicule neuf, dont le montant va d'ailleurs baisser l'an prochain, passant de 7 000 à 6 000 euros. Ensuite, le gouvernement a signé ce matin une charte pour la mise en place des bornes électriques, 100 000 prévues fin 2021, c'est trois fois plus qu'aujourd'hui, avec un déploiement particulier pour les grands axes, 500 stations de recharge rapides le long des nationales et des autoroutes. Rapides, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer 80% de la charge de la batterie de votre Zoé, par exemple, en une vingtaine de minutes seulement.
C'est déjà pas si mal. Par ailleurs, la prime à la conversion pour les diesels va disparaître ?
Alors oui, annonce faite tout à l'heure par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Aujourd'hui, si vous mettez à la casse un vieux véhicule, les ménages les plus modestes peuvent bénéficier d'un coup de pouce de 3 000 euros pour acheter soit un modèle essence ou un diesel récent. Eh bien, au 1er janvier, si vous choisissez un diesel, cette aide ne vous sera plus versée. Il faut dire que le diesel représente encore 6 ventes sur 10 dans l'occasion.
Merci Christophe. L'Angleterre veut plus que jamais dissuader les migrants d'arriver jusqu'à elle. Le commandant en charge du risque clandestin dans la Manche veut même mettre en place des filets pour enrayer les moteurs des bateaux qui sont de plus en plus nombreux à faire la traversée Marébillon.
Oui, l'an dernier, 30% des migrants traversaient la Manche avec des embarcations de fortune. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. C'est pour ça que Dan Homaoni, en charge du nouveau poste de commandant du risque clandestin, cherche activement des solutions. L'une d'entre elles serait en effet de déployer des filet dans la Manche. Les moteurs des petits bateaux seraient donc noyés. C'est là que la marine britannique embarquerait les migrants pour les ramener sur le sol français. Tout est prêt, ce système pourrait être mis en place immédiatement, dit Dan O'Mahony. Un détail cependant, l'Hexagone refuse de récupérer ces migrants. D'autres tactiques sont aussi étudiées, utiliser un drone pour garder un œil sur les côtes françaises et agir dès qu'une embarcation se mettrait en chemin, ou encore utiliser des canons à eau qui créeraient des courants contraires empêchant les petits bateaux d'approcher des côtes anglaises. Toutes ces tactiques requièrent le consentement de Paris et Dan O'Mahony a tenu à faire comprendre ce week-end lors d'une interview à la presse dominicale britannique que les solutions sont là mais que leur déploiement est retardé par l'Hexagone.
Marie Billon à Londres pour RTL. La Turquie récidive, elle vient de renvoyer un navire d'exploration en Méditerranée orientale pour rechercher du gaz naturel après un mois de fortes tensions. La Grèce dénonce une menace directe à la paix et continue de revendiquer sa souveraineté sur les eaux entourant l'île de Castelorizo, potentiellement riche en gaz. L'Europe avait déjà menacé la Turquie de sanctions. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer à partir de 13h au 32-10. Pascal.
Moi, je suis content parce qu'on pourra voyager à la Toussaint. À Noël, on ne sait pas, mais on pourra prendre des vacances, a priori, à la Toussaint, si j'ai bien écouté Jean-Baptiste Lemoyne.
A priori.
Ah, vous dites a priori, c'est demain.
Non, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, c'est lui.
Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà, et en tout cas, non, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y aura des assurances annulation. Si besoin. Voilà.
Donc on va évidemment une nouvelle fois parler du Covid-19 avec la proposition de François Hollande hier, qui proposait d'aider davantage les jeunes et d'une manière générale de faire payer les riches. Ce qui étonne à personne puisque François Hollande voulait prendre déjà 75%.
L'ennemi, c'est la finance.
Exactement. Voilà. Il avait tenu parole, comme chacun sait. Pourquoi tant de haine autour des policiers? Ça sera une question également, et celle-là, c'est une question grave. Vous pourrez nous donner votre avis. En cas d'élection en 2022 de Marine Le Pen, Enrico Macias veut quitter la France et s'installer en Israël. Vous pourrez donner là aussi votre avis. Craignez-vous un reconfinement, même si a priori c'est impossible, dit Jean Castex. Eh bien, cela encore fera partie des sujets que nous aborderons entre 13h et 14h30.
A tout de suite. La météo, Louis Baudin, un peu moins de pluie, mais on se dépêche d'en profiter.
Oui, c'est ça, on en profite. Hein. On est entre deux perturbations, celle qui nous a accompagnés hier, qui s'est atténuée durant la nuit. Donc là, on retrouve un temps sec. Bon, il y a quand même des passages nuageux, mais quelques éclaircies au milieu de tout ça. Du grand soleil, même près de la Méditerranée, ça restera comme ça cet après-midi parce qu'il y aura beaucoup de vent. Mistral et Tramontane atteignant au moins les 100 km/h, notamment dans la basse vallée du Rhône. Ça n'empêchera pas quelques averses en Corse. Alors donc, quelques éclaircies, petite accalmie. Pourquoi? Parce que déjà, dans le nord-ouest, sur la Bretagne notamment, reviendra une perturbation. Elle est déjà là d'ailleurs, c'est pour ça que là, je ne veux pas me tromper beaucoup. Avec des nuages, de la pluie, tout ça progressant vers la Normandie et le Val-de-Loire en fin d'après-midi. Et puis les températures toujours aussi fraîches. Hein. On sera entre 10 et 13 degrés seulement dans le nord-est, 13 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 14 à 20 degrés dans le sud.
Donc si j'ai bien compris, demain parapluie.
Ah ben voilà, la perturbation dans le nord-ouest, va traverser toute la France. Demain matin dans l'ouest, en fin de journée dans les régions de l'est. Elle balayera donc toutes les régions, y compris le sud. Elle aura de la neige en montagne dès 1500 ou 1600 mètres, donc à basse altitude. Toujours du vent en Méditerranée où là, le ciel sera un tout petit peu plus dégagé. Puis après son passage, encore des averses et toujours cette fraîcheur. 10 à 13 degrés, pas plus demain après-midi dans la moitié nord, 13 à 20 dans le sud.
Ça va défiler toute la semaine.
Et ça va défiler comme ça. Bon, on en reparlera. Mais surtout la fraîcheur, hein. C'est comme ce qui caractérise la période.
Merci.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et quel est le sujet qui vous fait le plus réagir pour le moment? Eh bien, curieusement, c'est Enrico Macias qui a confié sur Radio J qu'il était prêt à s'installer en Israël si Marine Le Pen succédait à Emmanuel Macron en 2022. Il y a des surprises parfois au standard. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Enrico?
Ben, moi, ça m'a fait un peu sourire. Hein. Je trouve sa réaction un peu puérile, je dirais. C'est un petit chantage que je trouve enfantin, à destination, bien sûr, pour utiliser son ancienne notoriété, parce que bon, ça...
Son ancienne notoriété, c'est pas gentil, mais on va en parler tout à l'heure. C'est lundi, on va essayer d'être gentil quand même. Christelle Rebière.
La France est dans une deuxième vague forte. Il ne peut plus y avoir de relâchement, a prévenu le Premier ministre Jean Castex. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu mercredi pour voir s'il faut aller plus loin. Emmanuel Macron accordera une interview télévisée mercredi vers 20h. Le tourisme souffre. Paris, ville lumière, est devenue ville fantôme. Elle a perdu perdu 60% de ses visiteurs en un an. La Corse et l'Outre-mer ont aussi souffert. Cet été, le secteur du tourisme a accusé une perte de 50% de ses recettes. Bernard Tapie compte bien se rendre au palais de justice de Paris. 15 mois après sa relaxe, il est rejugé en appel dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Plus de 400 millions d'euros lui avaient été accordés, puis finalement annulés au civil pour fraude. Même affaibli par un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, Bernard Tapie compte participer pleinement au procès qui s'ouvre dans une demi-heure. Le prix Nobel d'économie récompense deux Américains, Paul Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécoms. Jusqu'à 4...